On rejoint au téléphone Madame Marie Alliott, directrice générale du Théâtre Déchaîné. Bonjour, Madame Alliott.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On parlera du Théâtre Déchaîné, mais d'abord, vous avez sorti tout récemment un guide à l'introduction à l'accessibilité créative.
En effet, on a sorti ça le 25 mars passé. L'accessibilité créative, c'est notre démarche à Théâtre Déchaîné pour réfléchir à l'accessibilité des communautés dites de la diversité fonctionnelle dès le début des créations en art vivant. Donc, nous, on est en théâtre, mais on pense aussi à la danse, on pense aussi musique et en diverses formes de présentation artistique. Et en réalité, on a sorti un guide de 67 pages pour que les artistes, les diffuseurs et les médiateurs culturels, n'importe qui puisse avoir des outils pour penser l'accessibilité dès le début des créations qu'ils font.
Parce que vous êtes un organisme de création de diffusion d'expériences culturelles accessibles, mais vous êtes aussi un organisme de recherche. Donc, ça fait partie un peu de votre mandat que de partager information par rapport à l'accessibilité.
Exactement. En réalité, dans nos valeurs à la base, le transfert de savoir, le partage de savoir et faire de la recherche, ça fait partie. Ce guide-là, c'est 3 ans de travail que j'ai fait avec Andréane Giguère, qui est co-directrice artistique avec moi de l'organisme. Et c'est vraiment là des très longues, très grosses recherches qu'on a faites auprès de plein d'organismes, de gens, d'artistes pour s'assurer là, que qu'est-ce qu'on dit puisse réellement aider concrètement des gens à penser à l'accessibilité dans leur création.
Donc, on parle particulièrement de l'accessibilité aux spectateurs, aux spectatrices?
Exactement. Nous, c'est notre spécialité, c'est vraiment ça qu'on fait de la recherche. Bien sûr, on pense aussi, on ne peut pas penser à l'accessibilité des artistes, de la diversité fonctionnelle sur scène, mais à la base, c'est les spectatrices et spectateurs.
Et si vous avez sorti un guide, là, c'est parce que forcément, il y avait des besoins. Où est-ce que vous avez vu, comment vous êtes venu à voir là, qu'il y avait des besoins puis que c'était peut-être pas aussi accessible là, qu'on pensait?
Bien, c'est sûr que là, ça fait 6 ans quand même qu'on travaille là-dedans. On y pensait bien avant ça, mais la compagnie a 6 ans. Et on le voit, c'est bien sûr, il y a de l'accessibilité de plus en plus dans le milieu culturel.
Oui.
Il y a encore des grands manquements, mais il y a quand même plus en plus de réflexion. Mais ça reste qu'habituellement, c'est en fin de parcours. OK, on a fait notre œuvre d'art, puis à la fin, bien, s'il nous reste un peu d'argent, ou si on est capable, on va essayer de mettre des interprètes en langue des signes québécoise, ou on va essayer de faire ci, faire ça. Mais c'est rarement pensé dès le début, et ça fait une grande différence. L'accessibilité peut être un moteur créatif incroyable. C'est vraiment ça qu'on veut réfléchir. L'autodescription, par exemple, peut amener à faire des choses artistiques qu'on n'aurait pas pensé à faire autrement. Il y a vraiment des belles choses qu'on peut faire avec l'accessibilité. Et en plus, ben, de rendre ça ouvert à plus de gens, mais pas juste aux personnes de la diversité fonctionnelle, mais à tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, qui veulent découvrir d'autres choses. Il y a des gens qui, ça les aiderait d'avoir des sous-titres ou de l'autodescription, etc.
Oui, souvent, on pense, donc, quand on pense à l'accessibilité, on pense à l'accessibilité physique des lieux, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là.
Ça va vraiment de loin plus loin que ça parce que en réalité, il y a énormément de gens quand même qui vivent diverses situations, soit de handicap ou qui les aideraient. Et de l'autre bord, ben il y a des gens qui veulent que, tu sais, par exemple, je sais pas moi, si on parle de la lumière en salle, qui peut aider les personnes, par exemple, neuroatypiques ou anxieuses, mais il y a des gens pour qui vivre une autre type d'expérience avec de la lumière en salle à 30%, là, pas très grand, mais quand même, peut les amener à voir d'autres choses, peut les amener à voir, même peut-être qu'ils ont un peu des lunettes, peut-être que ça les aiderait dans leur vue. Il y a plein de moyens de penser ça. Là.
Oui, puis il y a des gens qui ont juste une sensibilité à la lumière aussi. Hein.
Exactement.
Et c'est... Peut-être que c'est moi là, qui est pas au courant, mais à ce que j'en sais, il y avait quand même peu là, d'outils par rapport à l'introduction à l'accessibilité. C'est-à-dire que les gens, même s'ils voulaient bien faire et qu'ils voulaient être inclusifs, il y avait quand même peu d'outils à savoir comment on fait ça concrètement.
Ben, c'est exactement le point qu'on a découvert. Quand on a voulu commencer, on s'est mis face à il y a très peu d'options. Oui, peut-être que Kéro l'a sorti quelques guides sur l'accessibilité, mais surtout plus physique, l'accessibilité des lieux. Il manquait quand même beaucoup d'outils pour tous les autres besoins d'accessibilité. Et surtout en culture, quand même, la culture a ses particularités. On parle quand même d'œuvres d'art, on parle quand même d'un autre type de réception. Donc, on a fallu qu'on aille chercher quand même plus loin les possibilités, qu'est-ce qui aidait les gens, qu'est-ce qui les aidait pas, et aussi comprendre que, ben, on peut pas faire une œuvre d'art qui puisse accueillir tout le monde en même temps, parce que l'accessibilité de certaines personnes, ben, va être nuit par qu'est-ce qui aide d'autres personnes. Donc,
oui.
C'est ça.
Vous faites bien de le dire. On fait ce qu'on peut, mais en même temps, ça peut venir en contradiction les gens avec les autres. Donc, à un moment, il faut faire des choix et il faut regarder le type de clientèle qu'on a envie de faire venir.
Exactement. Puis on peut pas tout faire en même temps, ne serait-ce qu'une façon de ressources, de temps, et de, comme on vient de dire, juste d'accessibilité qu'on propose. Donc, c'est vraiment important de réfléchir, mais ce spectacle-là ou cette œuvre-là, ben cette fois-ci, je vais la réfléchir pour telle communauté, tel type d'accueil, tel type de besoin, en restant très ouvert que tous les gens qui veulent vivre cette expérience-là, qu'ils puissent profiter de ça, on les accueille à bras ouverts, mais on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on nuit aux gens quand on fait ça. Quand on dit « Ah oui, c'est fait pour tout le monde », ben forte chance est, à quelques exceptions près, qu'on va mentir.
Ben en fait, on va tourner coin rond possiblement pour essayer de tout faire, là, puis on va manquer la cible là, sur certaines choses, j'imagine.
Exactement, puis ça reste que si le but est de penser les besoins qu'on cible dès le début de la création, ben, on peut pas être en train de faire tous les besoins parce que notre œuvre d'art aussi ne tiendra pas.
Oui,
et,
oui,
je veux
clairement.
Dire, ça reste quand même qu'il doit avoir des choix artistiques de fait autant que des choix d'accessibilité et les un ou l'autre doit pas être plus important.
Et parlez-nous aussi là, du théâtre déchaîné. Donc, vous avez dit, la compagnie a quand même 6 ans. Quel type d'œuvre vous proposez?
On fait vraiment plusieurs types d'œuvres et de spectacles dans différents milieux. On a eu des œuvres au téléphone et sur le web pour assurer que les gens qui ne peuvent pas se déplacer puissent avoir quand même accès à de la culture. On fait des spectacles là, dans les résidences CHSLD et autres pour aller au-devant de personnes aînées. On a eu un spectacle aussi pour les personnes avec des troubles neurocognitifs, début d'Alzheimer, ce genre de choses-là. On prépare un spectacle avec les Muses en ce moment, qui est une école spécialisée avec des artistes neurodivergents et ou avec une déficience intellectuelle. Et on fait un gros spectacle en co-création pour les adolescents en ce moment. On est en résidence en ce moment. On a vraiment plusieurs projets là, comme ça pour assurer de parler à diverses communautés. D'ailleurs, plus tard cette année, on a aussi un gros projet de co-création avec des citoyens et citoyennes aveugles ou en blie-up qui voudraient faire de la création théâtrale avec nous. Donc, on travaille vraiment sur plusieurs fronts pour assurer là, une citoyenneté culturelle élargie. Là.
Vous manquez pas de projets, mais parlez-moi quand même, parce qu'il y a quelque chose qui a retenu mon attention, vous parliez d'œuvres par téléphone. Et là, j'ai de la difficulté à comprendre de quoi on parle.
c'est ma spécialité, j'adore écrire ça personnellement. C'est moi qui écris beaucoup des œuvres de ce genre-là à Terre déchaînée. Donc, en réalité, c'est des œuvres qui sont jouées comme en direct. D'ailleurs, par exemple, on a eu fait en 2020 et 2021 Tantôt demain peut-être, qui était une œuvre téléphonique pour un spectateur à la fois. Donc, il y a une comédienne qui est là en direct et qui jase et qui fait le texte. Et là, il y avait l'interaction. Donc, le spectateur peut répondre. Et c'est vraiment une œuvre d'art, mais jouée au téléphone. Donc, on peut faire des choses différentes qu'on peut faire sur scène. On peut murmurer, on peut discuter, on peut être anonyme. Il y a plein de possibilités avec le théâtre téléphonique.
Oui, je comprends.
Que personnellement, on adore à Terre déchaînée. Ça donne aussi une opportunité aux gens qui sont proches aidants ou qui ne peuvent pas se déplacer pour plein de raisons d'avoir accès à du théâtre. Là.
Et est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font ça au Québec?
Non, ben, je dis pas qu'ils n'ont jamais fait, mais on sait qu'en 2020, on a été la compagnie qui a fait la première pièce spécifiquement pour le téléphone.
Okay.
Mais ça reste quand même, en Europe et aux États-Unis, c'est quand même une tradition qui a presque 50 ans.
Oh, okay.
Ce n'est pas nouveau, mais au Québec, je dois avouer qu'ils pensent réellement au téléphone comme une dramaturgie. Je pense qu'on est les seuls.
Ouais, c'est moins connu, mais c'est quand même, ça donne une accessibilité qui est différente. C'est quand même brillant comme idée, bien que forcément, ça peut être fait pour des plus petits publics, mais ça peut être réfléchi en tant que tel. Là.
Exactement, ça vient son propre moyen créatif de l'accessibilité créative où on pense l'œuvre autrement.
Oui.
Et en même temps, c'est accessible. C'est vraiment ça.
Et comme vous dites, ça donne toute une nouvelle créativité à l'œuvre pour quelque chose qu'on n'aurait pas pensé autrement. Donc, au niveau créatif, c'est très intéressant. Et vous nous avez parlé donc de différents projets qui vont avoir lieu au niveau de cette année. Vous êtes un peu partout. Est-ce que, j'imagine qu'au niveau des subventions, ça doit être difficile d'avoir des subventions pour ce type de théâtre-là, surtout ces jours-ci, en contexte évidemment où on fait face à plusieurs coupures.
On va pas faire semblant. On a la particularité de devoir être dans le milieu des arts, qui a ses propres enjeux
oui.
financiers, et le milieu de l'accessibilité,
oui,
qui a ses propres enjeux financiers.
C'est ce que je me disais.
On réussit à trouver notre chemin, à essayer de penser à des partenariats, à trouver des fois des moyens de faire financer ça. Ça reste quelque chose sur lequel je suis très passionnée, de réfléchir au financement en culture. Mais c'est sûr, on va pas se faire semblant. Là, ça reste dur. Il y a plein d'obstacles. On doit passer notre temps différemment. Les ressources financières sont pas les mêmes pour pouvoir assurer l'accessibilité de tout le monde. Donc, c'est sûr que ça vient avec des gros défis. On va pas se mentir.
Ça aussi, j'imagine qu'il faut être créatif, là.
Il faut être extrêmement créatif. Il faut vraiment penser, est-ce que cette sub-là dans un autre département pourrait faire l'affaire? Est-ce que
oui.
ce partenariat-là serait une bonne idée qu'on n'aurait pas pensé? Mais là, c'est exactement. Il faut être créatif, outil là-dedans pour assurer que les choses se fassent.
En terminant, qu'est-ce qui vous a donné le goût là, d'ouvrir cette compagnie-là puis de vous spécialiser dans ce type de théâtre-là?
Ben, étant moi-même une personne en situation de handicap, c'est sûr que c'est une réflexion
oui.
compliquée de voir l'accès. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une passion quand, avec la pandémie qui est arrivée, de faire, parce qu'au départ, on a ouvert juste avant la pandémie, on n'avait pas fait notre premier spectacle. Et là, la pandémie est arrivée, on a fait, oh, mais il y a tellement de réflexions à faire avec ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut amener une accessibilité à tout le monde? Donc, c'est vraiment une réflexion d'égalité des chances et de l'égalité à l'accès de la culture que je trouve qui manque.
La pandémie a presque aidé votre réflexion, finalement.
Honnêtement, pour nous...
C'est rare qu'on entend ça, là, mais...
C'est vraiment rare, mais pour nous, j'aurais probablement pas fait mon premier show au téléphone sans la pandémie, puis tout ça a découlé après d'une réflexion de mais voir tout ce que ça donne accès, pourquoi on fait pas plus là-dedans. C'est vraiment ça qui est arrivé.
Donc, en terminant, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut voir le guide? Là, le guide est accessible en ligne gratuitement, donc pour ceux et celles qui voudraient le consulter?
Oui, on peut télécharger sur notre site web www.théâtredéchaîné.com. Il est gratuit, le document est accessible avec lecteur d'écran. Et ils peuvent, sinon, il y a quoi que ce soit, on peut nous écrire, on va vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Donc, on est toujours rejoignable s'il y a quoi que ce soit.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance dans vos nombreux projets de cette année et des années futures. On espère vous revoir dans toutes sortes de projets accessibles.
Merci beaucoup.